Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. C'est indispensable de comprendre que l'histoire donne un rythme au futur.
Notre témoin de ce vendredi nous emmène de l'autre côté des Pyrénées.
Regardez-le. Je commence à en avoir assez. La prochaine fois, je t'arrache les oreilles. Après tout, pour ce que tu en fais, allez, viens.
Dire qu'il faut toujours que tu sois en train de faire des méchancetés.
Non, il n'est pas méchant. Il est assez étourdi, mais il est intelligent. Saturno a maintenant l'âge limite et il ne peut plus rester dans cette école.
Oui, il est temps qu'il gagne sa vie.
Si avec l'âge, il devient plus sérieux, il pourra faire un bon artisan.
Dunlop et mon patron lui a trouvé du travail dans un atelier.
C'est un grand monsieur, Dunlop. Il n'y en a plus beaucoup comme lui.
On aura peut-être reconnu Tristana de Buñuel. Ce n'était pas facile pour Jean-Bernard Majescas de se distinguer dans une famille haute en couleurs et qui était entrée entière dans la résistance comme dans un état naturel. Un oncle à Buchenwald, ils n'auront pas nos cerveaux. Un grand-père général et qui, déporté lui aussi, était devenu député gaulliste. Pour ne jamais perdre le sens de l'heure, il portait une montre à chaque poignet. La mère, elle, en août 44, vêtue d'un grand uniforme d'infirmière de la Croix-Rouge de la Grande Guerre, était partie accoucher le premier bébé de la libération de Paris. Famille oblige. Flanquée de cette ascendance impressionnante, Jean-Bernard Majescas a cherché des voies originales. À l'internat où on l'avait consigné, il faisait le mur pour aller becqueter à l'auberge voisine. L'internat, c'était dans le Béarn. Il alla chercher l'aventure de l'autre côté des Pyrénées. Franco régnait encore, mais étrangement, c'est là qu'il sentit pour la première fois sa liberté. Depuis, l'Espagne a connu un âge d'or avec la démocratisation et le retour dans l'Europe. Jean-Bernard Majescas a alors beaucoup parcouru le Pays Basque, puis il est descendu vers l'Andalousie. L'Espagne est enfoncée aujourd'hui dans une crise multiforme, peut-être plus illisible qu'autrefois. Quant à Jean-Bernard Majescas, sa mère ne comprend toujours pas quel métier il peut exercer, mais il aime citer cette phrase de Bergson, « Il n'y a pas l'ordre et le désordre, mais deux sortes d'ordre, le géométrique et le vital. » Il est du côté du second.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Jean-Bernard Majescas, bonjour.
Bonjour, Jean
Donc, votre
Lebrun.
Mère sait quand même que vous vous occupez beaucoup des métiers du web.
Oui, elle n'a pas tout à fait réalisé l'étendue du mal.
Et est-ce qu'elle lit un journal libéral qui, le vendredi, publie une chronique culinaire que vous signez? C'est, je vais utiliser un nom espagnol pour le caractériser, El Supremo.
El Supremo, Nicolas Betou.
Qui vous a embauché.
Qui m'a embauché, qui m'a appelé un jour, je l'avais rencontré trois fois, et qui m'a dit, est-ce que tu accepterais de faire une chronique gastronomique? Je lui ai dit, je n'ai jamais écrit de ma vie. Et il a dit, ça fait rien, j'ai confiance, ce qui est sympathique.
Et est-ce qu'il sait vos opinions politiques?
Oui, je connais les siennes aussi, mais les miennes devraient normalement le terroriser, mais bon, il est fier. Et...
Vous n'aimez pas trop les tables patronales?
Ça n'est pas tout à fait exact, Jean Lebrun. J'aime bien les tables à nappes et à serviettes damassées. J'aime bien les endroits où on est bien, mais pas compassé.
Que ceux et celles qui veulent se précipiter dans la dernière gargote à la mode le fassent. À l'opinion, on sait ce que becqueter veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, becqueter?
Becqueter, c'est partager. C'est bouffer ensemble, être bien, rire beaucoup, dire des bêtises, sans complexe, s'amuser dans des endroits sans prétention autre que nous régaler.
El Supremo n'aime pas que vous parliez de restaurants inaccessibles parce qu'ils sont trop lointains. El Supremo n'aime pas non plus quand une chronique culinaire commence par la cervelle, le sanglier, les tripes, parce qu'il paraît que c'est clivant.
Moi j'aime tout, sauf le vermicelle mal cuit. Et Nicolas Betou, El Supremo, m'a non pas reproché, il est au-delà de ça, ou bien au-dessus plutôt. Mais c'est vrai, j'ai chroniqué des restaurants à 11 000 km d'ici ou à 1 800 km derrière une station-service, pire, des restaurants fermés ou qui n'ouvriront jamais. C'est vrai que ça surprend. Quant aux produits, la tripe, la cervelle, enfin tout ce qui est de l'ordre de la tripe, ça revient beaucoup à la mode et tant mieux, parce que c'est délicieux.
Est-ce que ça n'est pas clivant de commencer, mais on va parler de l'Espagne, une émission de radio en évoquant la corrida, surtout en ces termes qui datent de 1953.
Le voici en face du taureau, dans l'axe du taureau. Il faut que les deux pattes de devant et les deux pattes de derrière du taureau soient exactement dans le même axe, que le taureau soit bien placé sur le sol. Voici l'épée à la main du torero qui plonge. Très 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 belle mise à mort, l'épée est à moitié entrée dans le corps et le taureau semble asphyxié. Le taureau est encore debout. La mise à mort était extrêmement belle et le taureau donne des signes évidents d'asphyxie. Et voici les péones qui commencent à le faire tourner pour l'étourdir. Mais le taureau est agité de soubresauts et semble vraiment avoir été terriblement touché par le matador qui a vraiment fait cette course avec beaucoup de style, beaucoup de courage et beaucoup de grâce.
1953, ça n'est pas choisi par hasard parce ouais, que bah oui, vos parents se sont rencontrés à la corrida.
Oui, ils se sont rencontrés à une corrida, je crois, le 6 septembre 1953, à une corrida où officiait Recondo. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que Recondo est aussi le nom d'un restaurant célébrissime de Saint-Sébastien. Et ce Recondo était donc l'idole absolue des aficionados, de ceux qui aiment la corrida au Pays Basque Sud, comme on a dit plus tard, donc au Pays Basque espagnol, et en province de Guipuscoa en particulier, oui.
Allez, on a perdu la moitié de nos auditeurs, peut-être davantage de
corrida.
Nos auditrices. À 6-7 ans, aggravons notre cas, oui. Avec Carmen, la jeune fille au oui, père de la Carmen, famille, oui. De ce côté-ci des Pyrénées. Oui. Vous allez de l'autre côté, et oui. C'est la Feria à Pamplune.
Oui, c'est la Saint-Fermin, donc la Saint-Firmin, qui est le premier dimanche de juillet. Et c'était pour moi un moment et des moments renversants, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Je pense qu'avant d'aller à la Saint-Fermin avec Carmen, je n'avais pas de vie. J'avais pas de vie du tout. J'étais comme tous les enfants. Mais là, arrivé là, sans les parents, être débarrassé des parents, voir des taureaux dans la rue que mes parents aimaient aussi voir, mais être seul, sans eux,
voir la jeune fille au père encornée.
Au père, oui, encornée. Alors elle a été éraflée plutôt qu'encornée. J'exagère quand je dis encornée. On lui a mis un bon gros pansement, puis nous sommes partis deux jours plus tard dans le sud de la Navarre, qui est cette province dont Pamplune est la capitale, Irunia, et nous sommes partis à Corella, qui avait été une résidence du roi Philippe IV d'Espagne, où j'ai donc, non pas vécu, mais passé de nombreuses semaines et nuits.
Alors, c'est la liberté pour vous, l'Espagne,
total.
De ces années-là. On est en quelle année?
On est en 1960, 59-60,
ah oui, 61. 59-60. Alors pour vous, c'est le souvenir de la première cigarette, la première émission
Ramon,
de télévision.
José Ramon, qui était un gars qui devait avoir 17-18 ans, qui était le fils de l'embouteilleur à l'époque. Peut-être qu'on fait ça aujourd'hui industriellement. Mais à l'époque, il y avait un peu partout en Espagne des petites entreprises de deux ou trois gaillards qui mettaient en bouteille les sirops, sodas qu'on leur envoyait. Et Ramon, il faisait ça. Puis il mettait ça dans des caisses et il allait les livrer dans les différents bars, restaurants de la petite ville de Corella. Et il nous fascinait parce qu'il avait la main sur le trésor absolu, le soda.
La langouste est meilleure en Espagne quand on a 6-7 ans, l'araignée
Alors, l'araignée, c'est le changurro pour moi, donc c'est le nom basque. C'est en même temps l'animal et la préparation. L'araignée farcie, servie chaude. Et puis la langouste, c'est la langouste dite thermidor, la langouste à la mayonnaise, que j'ai mangée à Monteulia, qui est une des collines qui entoure la baie de Saint-Sébastien. Et donc, d'où j'ai apercevé le bateau du Caudillo de Franco.
Ah oui, quand même, il y avait Franco, on aura peut-être l'occasion de revenir dans un instant. Vous n'avez pas été frappé par la pauvreté terrible qui s'exprimait dans les rues, par la vue des handicaps de toutes sortes?
Bien sûr. Pour moi, c'est ridicule de dire pour moi, mais ça fait l'Espagne. Ça contribue à faire l'Espagne de cette époque-là. C'est-à-dire une Espagne dans laquelle, quand on arrive de France, on voit dans la rue ce qu'on appelle des handicapés, mais le terme, pardon, mais n'est pas suffisant. Ce sont des gens qui sont réellement d'un caractère, enfin d'une apparence dite monstrueuse. Et en Espagne, ils sont dans les rues du moindre village. Alors on a l'impression qu'il y a énormément de tarés, comme disait Luis Buñuel. Les tarés congénitaux, disait-il, en Espagne. Il y en a comme partout, Mais en France, ils sont cachés.
Enfin, il y en a eu dans la famille royale, une de vos explications quant au fait que les Espagnols voient sans problème les personnes en situation de handicap dans la rue, c'est que la famille royale elle-même...
Elle-même, ils étaient très consanguins. Je ne parle pas de Juan Carlos, de Felipe, mais des familles précédentes. Oui, ils étaient tout à fait monstrueux.
Buñuel, alors vous êtes un grand cinéphage.
Oui, c'est vrai. Cinéphage est bien approprié.
Mangeur de films. Ouais. Vous parliez de Buñuel, alors voici un extrait à nouveau de Tristana. On entend au loin, il faut quand même qu'on parle du franquisme et de ses agissements, une grève durement réprimée par la Guardia Civile. Et puis le personnage principal, c'est Fernando Rey, Don Lope, revenu d'un peu tout.
Où est-ce que tu viens encore, espèce de voyou? Je t'ai dit que c'était idiot, toujours te fourrer dans les salles d'histoire où il n'y a que des coups à attraper.
Ils vont se faire massacrer. C'est qu'une dure. Pauvres travailleurs. Non contents d'être cocus, ils sont battus. Le travail est une malédiction, ça tourne. Avant le travail, quand on est obligé de le faire pour gagner sa vie. Ce travail-là ne nous honore pas, comme certains le prétendent. Il ne sert vraiment qu'à remplir les bedaines de tous ces cochons d'exploiteurs. Seul le travail qu'on fait avec plaisir et par vocation ennoblit l'homme. Tous les gens devraient pouvoir travailler de cette façon-là.
Pauvres travailleurs, ils sont exploités, on leur tape dessus. Ça, vous l'avez vu, sans cesse.
Moi, ce que j'aime dans Buñuel, c'est « abat le travail ». Et c'est ce qu'on appelle le surréalisme de Luis Buñuel. Donc... il faut quand même lui rendre hommage. Et puis je vous remercie parce que c'est la première fois que je l'entends en français, ça m'était jamais arrivé. Mais les répressions, oui, bien sûr, je les ai vues, j'y ai assisté dès l'enfance. Et quand on est enfant, tout ce genre de choses paraît un peu comme une aventure. On est content et excité d'assister à quelque chose qui sort de notre ordinaire corseté. On vivait quand même dans un monde très discipliné, avec beaucoup d'autorité, où il fallait obéir à l'école, il fallait obéir à la maison, il fallait obéir partout. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et en Espagne, donc le Pays Basque, il y avait une répression qu'on sentait absolument partout, tout le temps, même si elle n'était pas exprimée 24 heures sur 24, par des coups, des rafles ou des coups de feu qu'on entendait, que j'ai entendu.
Tout de même, une fois, une commotion, comme vous dites, vous allez lire en espagnol.
Oui, une commotion.
Là, vous êtes devenu adolescent, oui. Vous choque particulièrement.
Oui, j'avais 14 ans. Et j'étais allé passer 15 jours à Lekeitio. Lekeitio, c'était un petit port de la côte basque. Et il y a eu, à la sortie de la messe, alors on allait à la messe, aussi parce qu'on y parlait le basque, on y chantait en basque. Le basque, la langue basque, était pas accepté dans la rue, ni à l'école, dans aucun endroit public, sauf l'église. Et à l'église, on pouvait chanter en basque, et je vous garantis qu'on y mettait tout notre cœur. Et à la sortie de cette messe-là, à Lekeitio, il y a eu un mouvement, des cris, des coups de feu, et des morts. Et on nous a précipités... pour nous cacher, les gens criaient. Et ce jour-là, c'est bizarre, quand j'y repense, c'est vraiment bizarre. Je me suis senti basque, définitivement.
Franck Olivard, qui a préparé cette émission, m'a dit « Tu ne trouves pas que Mikel Laboa, qu'on va entendre maintenant, a une tête de curé ?»
Beaucoup de basques ont des têtes de curé, c'est peut-être parce que beaucoup de curés sont basques.
« Si je lui avais coupé les ailes, il aurait été à moi. Il regarde un oiseau, il ne serait pas parti. Oui, mais voilà, il n'aurait plus été un oiseau. »
Il ne serait pas un oiseau.
Et c'est l'oiseau que j'aime.
Que j'aime aussi, Eroak.
Eroak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen aldegi. erabaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
La ra la ra 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 la ra ra la ra ra la ra ra.
Avec Jean-Bernard Majescas, qui a entre autres fonctions est chroniqueur gastronomique le vendredi au journal quotidien L'Opinion. Nous parlons maintenant du Pays Basque en révolution tel qu'il l'a connu dans les années 60-70. On a choisi de commencer Manon Tropo. Vous voyez, c'est un peu proteste song, je sais, c'est l'équivalent de John Bez chez les Basques.
Ben, c'est-à-dire que John Bez a chanté cette chanson en basque elle-même. Nous, ça nous énervait un peu. C'était pas...
Oui, mais je vous ai dit qu'on va commencer doucement. Alors, il faut d'abord, vous avez fait un peu de sociologie parmi mille autres métiers, que vous nous parliez de l'état du Pays Basque, de ses industries, de l'immigration,
Il y a eu les deux, c'est-à-dire que on disait toujours, quand j'étais enfant, bon, parce que l'histoire de ma famille a été mêlée à tout ça, en Amérique latine, en Colombie, Pérou, que nous, les Basques, nous avons donné à l'Amérique latine 50 présidents. Donc il y avait une sorte de fierté. Ça, plus le fait que, comme vous le savez, le premier tour du monde a été fait par un Basque, Sébastien Elcano, qui a fini ce que Magellan avait entrepris. Et puis, par ailleurs, que les trois navires de Christophe Colomb ont tous été construits au Pays Basque.
D'accord.
Donc, moi, je suis élevé dans cette fierté.
D'accord, et le bateau de Lafayette est parti vers les États-Unis, Pays Basque, etc., etc. Vous parliez des curés, vous n'avez pas dit que les sacristains de Paris aussi, souvent, ils venaient du Pays Basque.
Oui, alors ça a été très drôle. Je faisais mes études de sociologie à Paris 10 Nanterre, et dans je ne sais plus quel cadre, j'ai dit, moi je vais faire une petite monographie sur les sacristains de Paris. Et donc je suis allé interroger des sacristains, et je me suis rendu compte que presque tous les sacristains de Paris, à l'époque, étaient basques. Mais non seulement étaient basques du Nord, basques français, mais ils étaient de la même province, en majorité, la Soule, Mauléon-Lichard, et en majorité, à l'intérieur de ces basques soultins, de Barcus et d'Esquihul, de deux villages, tout petits, et qui ont fourni, comme ça, des, on peut pas dire des bataillons, mais des quantités de bedeaux et sacristains aux églises parisiennes.
Faudrait pas négliger quand même, c'est assez important, les agglomérations industrielles, c'est d'ailleurs dans celles-ci que se développe un climat de lutte des classes qui sera un des aspects de l'ETA. Quand on parle de l'ETA aujourd'hui, là on entre dans le lourd, Jean-Bernard Majescas, je vous vois vous renfrogner. On dit, depuis la création de l'ETA, 59, 829 morts. Oui, mais pour être honnête, tous les morts d'avant la fin du franquisme, 1975, faut pas les compter parmi les 829, parce que les assassinats causés par l'ETA pendant le franquisme, c'était extrêmement populaire.
Ah, c'était très populaire, je me souviens des... Vraiment, de la joie, il faut être honnête, de la joie qui a été la nôtre quand Carrero Blanco a fait son grand saut vers l'enfer.
C'était le dauphin de Franco.
C'était le premier ministre de dauphin de Franco.
Et qu'est-ce qui lui est arrivé?
C'était un amiral.
Qu'est-ce qui lui est arrivé?
Qui a commandé des sous-marins. Et la flotte de sous-marins espagnols est célèbre. Et donc, il a sauté, il a fait un grand bond. Et
sa voiture, enfin.
Voilà, mais lui dedans. Et l'ETA, en fait, miné. Le sol de la rue dans laquelle il passait régulièrement, et un jour il est arrivé, ils avaient miné et ça a explosé, la rue entière a explosé, vraiment un gouffre béant, et la voiture a fait un saut, je sais pas, de 45 mètres de haut, et tellement violent qu'elle est passée de l'autre côté dans la rue parallèle d'un quartier chic madrilène. Et on a vu ça, et il y avait des images à la télévision, ça a pas été, on voyait les images, en tout cas le cratère et les gens affolés. Et nous étions, mais ça fait de la peine sans doute à des gens, mais hystériques de joie.
C'est cette année-là d'ailleurs que vous assistez à votre première réunion d'indépendantistes un petit peu sérieuse. Je vous propose d'écouter l'extrait d'un film de Miguel Courtois qui s'appelle El Lobo, le loup. Il y a dans la bergerie, est-ce que c'est une bergerie, de l'ETA, un traître, on va l'entendre là, qui est mis en cause par un des héros dans un climat lourd de menaces.
Là où se réunit une famille autour d'un foyer, quand elle bénit le repas dans notre langue, là se trouve l'âme de tous les Basques.
On ne peut pas être basque sans parler basque. Mes parents sont d'Andaï et ils m'ont toujours parlé français.
Chaque basque devrait faire l'effort de réapprendre sa langue.
Et que fait-on des basques qui se sentent espagnols? Ceux qui veulent faire partie de l'État espagnol?
Cela, qu'ils s'en aillent. L'histoire de la nation basque est aussi l'histoire de ces traîtres. Des basques qui ont aidé les espagnols à nous voler ce que nous devions être. Et c'est pour ça que nous sommes ce que nous sommes. Pour leur donner ce qu'ils méritent et récupérer ce que nous avons perdu. Tu sais ce que c'est, ça?
Une balle.
La balle que je réserve aux traîtres. Nous ne construirons pas une patrie sans verser de sang. Alors nous devons nous préparer à souffrir beaucoup.
Alors, je ne sais pas si vous avez entendu quelque chose de la sorte. Dans votre première réunion, cette année 1973, Jean-Bernard Magescas, vous avez tout de même été un peu heurté.
Oui, donc Pinochet avait pris le pouvoir dans les circonstances que l'on sait, c'était dictatorial, militaire et assassin.
Au Chili.
En septembre 73. Et puis deux ou trois mois plus tard, je vais à une réunion à Irún, donc la ville frontalière. Et je m'étais dit, vraiment, en arrivant à cette réunion, je m'étais dit, bon, ça y est, là, j'y vais. Je rentrerai pas chez moi, je serai un héros idiot, mais un héros. Et la réunion débute, et quelqu'un dit, est-ce qu'on peut discuter de Pinochet? Alors oui, bien sûr, Pinochet, cet épouvantable bonhomme, bien sûr, on peut en discuter, on va vite être d'accord. Mais pas du tout. Ce type dit, est-ce que Pinochet est basque? Alors là, commotion encore, émeute dans la salle, et grosse discussion sur le fait de savoir s'il était basque ou pas. Et quelqu'un dit, non, Pinochet, il n'est pas du tout basque, il est catalan. Alors tout le monde s'est réconcilié. Nous n'avions pas un épouvantable dictateur dans nos rangs, si je puis dire.
Alors ça, c'est une question déterminante. Ridicule. Pour certains fondateurs de l'ETA, il faut avoir des quartiers
de basquitude. Une grand-mère basque.
Pour d'autres, comme, je ne sais pas, chez les autonomistes ou bretonistes de la péninsule ouest, il suffit d'aimer le beurre salé, ou du moins la langue bretonne, ou là, dans l'occurrence, la langue basque.
C'est le génie de l'organisation. Ces organisations, elles ne perdureraient pas si elles n'avaient pas une forme de génie à un moment. Donc, c'est le génie de l'ETA. Le théâtre Sabino Arana-Goyri avait dit déjà qu'il suffisait d'avoir un grand-parent, un quart de sang, c'est dingue, de sang basque. Et puis, petit à petit, comme le franquisme a favorisé une immigration vers le Pays Basque en provenance des provinces et régions les plus pauvres d'Espagne, donc puisque le Pays Basque était très industriel, hein, c'était la région industrielle d'Espagne, on a peuplé les usines d'ouvriers qui venaient d'Andalousie et d'autres régions de la Manche, la Mancha, etc. Donc c'est posé la question de la dilution finalement du basque et d'être basque et avoir du sang basque, si j'ose dire, dans les cités ouvrières et dans les usines. Et l'ETA a dit à un moment, pour être basque, il suffit de se revendiquer basque.
Ça n'a pas suffi quand même pour vous convaincre,
non.
Jean-Bernard Magescas.
Sauf que moi, j'ai un quart de sang basque.
Vous avez été très sensible, notamment pour vos enfants, au climat de terreur et d'intimidation qu'on sentait par exemple à Saint-Sébastien, qui s'est étendu à tous les élus du Parti populaire qui devenaient des cibles.
Oui, mais le Parti populaire, c'est une chose, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Le Parti populaire, c'est un parti de droite espagnol. Mais il y avait au Pays Basque des gens totalement basques, parlant le basque absolument couramment, qui voulaient avoir leurs activités au Pays Basque et qui devaient payer l'impôt révolutionnaire. Et s'ils le refusaient, alors là, on blaguait pas. Donc, menace sur les enfants, ça. Moi, j'ai un ami qui a changé de parcours en auto tous les jours, au moins deux fois par jour, pour pas se faire buter. Et les enfants, quand ils allaient à l'école, ils avaient protection, etc. Donc, vraiment, c'était très dur. Jusqu'au jour où j'ai quand même un peu toujours
on aime ce, moi j'aime mon Pays Basque, donc je vais avec mes enfants à un des moments les plus durs, c'est vrai, du mouvement et des explosions, des attentats au Pays Basque. Nous allons voir les feux d'artifice à Saint-Sébastien. J'avais mes trois enfants qui avaient 6 ans, 8 ans et 10 ans. Et là, d'un coup d'un seul, les barrières Vauban à bas, et les coups de feu. Et nous voilà réfugiés à plat ventre dans une chez un marchand de glace. J'aime beaucoup les glaces italiennes, qui est très bon à Saint-Sébastien. Et là, ça tire. Les enfants sont très impressionnés. Ils veulent rentrer. Et moi, je fais le bravache et je leur dis non, pas question. C'est fini, tous ces coups de feu. Nous allons rester ici et voir le feu d'artifice. Et à la fin du feu d'artifice, nous nous rendons à pied pour aller rechercher l'automobile au parking. Et puis, je me rends compte que la voiture est garée sous une scène. Ils ont construit une scène, une estrade au-dessus de notre bagnole. Elle est donc en dessous. Et que sur l'estrade, il y a les dirigeants d'Herri Batasuna, qui est le mouvement politique issu de l'extrémisme de l'ETA, et qui avait remporté 25% des voix aux élections, car il y avait des élections. Et ils pouvaient s'y présenter. Et je me dis, mais zut, mais il y a eu les coups de feu avant, il y a peut-être eu un mort ou deux, comment on va faire, hein? Mais la plaque de notre voiture était 64, c'est une plaque reconnue comme Pays Basque. Donc on a pu repartir. On a eu peur.
Maintenant, c'est le temps de la conviviencia qui peut-être se dessine. L'ETA a arrêté ses attentats depuis 2010 et un de ses leaders principaux, Arnaldo Otegi, vient d'être libéré et on pense qu'il va prêcher comme en Ulster la Réunion. Peut-on dire un mot de l'Andalousie où vous êtes réfugié plus au sud? On parlait de la pauvreté terrible de l'époque du franquisme, elle n'est pas loin.
Elle n'est pas loin du tout. Je pense qu'il y a encore aujourd'hui une des pratiques terrifiantes du franquisme, qui n'était pas une pratique du franquisme, qui était une pratique patronale, agraire de l'époque, qui est les enchères inversées. C'est-à-dire que vous avez des gens qui cherchent du boulot pour la journée, donc ils sont sur une des places du village, que l'on connaît, où on va, le mayoral, c'est-à-dire le contremaître envoyé par le patron, c'est des grands propriétaires terriens. Donc le mayoral vient et il dit, voilà, j'ai du travail aujourd'hui pour toute la journée, qui veut venir? Alors vous avez 10 mains qui se lèvent et le mayoral dit, mais tu veux combien? Il dit, et lundi, je veux 100 pesetas pour la journée, ou 20 pesetas pour la journée. Et le mayoral dit, mais tu es fou, c'est trop. Alors, il y en a un autre qui dit, mais moi, je prends 10. Et alors, ainsi de suite, on prend ceux qui ont demandé le moins, et ça fixe aussi le prix. Et je sais, en fait, qu'aujourd'hui, cette pratique continue avec les ouvriers immigrés plus ou moins clandestins du Mali, qui viennent, qui sont saisonniers, et qu'on voit en Andalousie à la saison des olives, sur les places de certaines petites villes et villages.
Je me demande si ce n'est pas une pratique moderne qui va revenir un peu partout, mais je ne veux pas vous faire vous exprimer là-dessus.
On la voit ici, à Paris, les magasins de bricolage.
Vous fâcheriez avec Elsou Prémo.
Jamais.
Le patron de l'Opinion, le journal libéral.
Je l'aime.
Auquel vous appartenez.
Increíble y conmovedora historia de Joselito Jiménez. Un niño viene desde España en una pequeña barca a buscar a su padre.
Al volea, Rosadito, que yo te vea, al volea, vientecito, te bambolea.
Ah, Joselito, c'est une figure de l'Andalousie.
Ah, Joselito y Pulgarcito. Joselito a des aventures, il part dans son petit bateau, un frêle esquif, il traverse l'Atlantique, il a 6 ans, enfin, c'est génial. Moi, c'était mon rêve, je l'avais vu au cinéma, et je m'étais dit, mais quel enfant admirable, nous sommes formidables, nous pouvons appareiller, nous pouvons foutre le camp au Mexique, comme ça.
Ça va être le coup de l'étrier, comment ça se dit en andalou, le mot
le coup de l'étrier,
oui.
La espuela.
Oui. Ma dernière observation, ça va être becté. On cherche une définition, c'est appareiller.
C'est très vrai.
Merci à vous, Jean-Bernard Majesca. Cette émission, je l'ai dit, a été préparée par Franck Olivard avec la technique Hélène Langlois. La réalisation, c'était Jacques Sigal.